La parole du Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Et là, nous nous souvenons qu'au cours des noces de Cana, donc lorsque le Seigneur a changé de l'eau en vin, ce vin a donc été, ce vin du miracle a été apporté à l'ordonnateur du repas. Et l'ordonnateur du repas a prononcé une parole extrêmement intéressante, sur laquelle nous voulons nous arrêter un peu ce soir. Donc Jean chapitre 2, verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Je relis dans ce verset 10. « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et l'ordonnateur du repas prononce là, en cette occasion, une parole dans laquelle il y a beaucoup plus de vérité que ce qu'il imaginait. Parce que c'est la règle qui est établie dans le monde entier, cette règle-là. Le bon vin d'abord, et après qu'on s'est enivré, ce qui est moins bon. Et je dirais que ça, c'est la règle parmi les hommes déjà. Et n'y a-t-il pas tant de personnes désappointées qui ont fait cette expérience-là, hein ? Vous avez eu la langue prometteuse, la langue onctueuse, dirais-je, d'abord, les paroles douces comme du miel, et puis après, malheureusement, trop souvent la déception. Hein ? Donc, Achitophel présente d'abord le bon plat, je dirais, de l'amour et de la gentillesse à David. Il est son conseiller. Et puis après vient ce qui est pire, lorsqu'il trahit son maître et devient son ennemi, devient le conseiller de son fils rebelle. Judas présente le beau plat d'abord, le beau plat des belles paroles et des belles apparences. Mais après, je dirais, c'est la lie qui est au fond de la coupe. Celui qui mange mon pain a levé le talon contre moi. Hein, donc, c'est ce que Jésus constate. Et combien qui ont expérimenté cela en ce qui concerne ceux qu'ils pensaient être leurs amis. Voilà. Mais dans le domaine de l'existence, il en est de même, hein, quelque part. C'est-à-dire que dans la jeunesse, bien voilà, les sens du corps sont plus aiguisés pour nous faire au maximum profiter de la vie, hein, autant que possible. Mais avec l'âge, on s'aperçoit que les choses changent quand même, et de ce point de vue, eh bien, le moins bon vient ensuite, de ce point de vue-là. Et c'est vrai que vous avez d'abord cette coupe débordante de la jeunesse qui est là, et ensuite, vous avez les eaux plus stagnantes du grand âge, à moins bien sûr que Dieu n'y mette un renouveau de vie véritable quand la personne se confie en lui. Amen. Pour le monde, donc, il en est bien ainsi. D'abord, le bon vin et le moins bon après qu'on s'est enivré. Et ce soir, nous voulons considérer cependant deux maisons de festin. Deux maisons de festin. Tout d'abord, nous jetterons un coup d'œil au festin du diable. Et nous verrons qu'il s'en tient exactement à notre règle. D'abord, le bon vin. Et ensuite, quand les ménages de ceux qui sont invités sont bien imprégnés de ce bon vin qu'il a donné, alors vient le moins bon et même le pire. Hein. Et puis ensuite, nous aurons à cœur aussi d'entrer ensemble dans la maison de festin de notre bien-aimé Seigneur Jésus. Et de lui, nous pourrons dire, comme l'ordonnateur du repas à l'époux, « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Hein, » donc. Parce que les choses que le Seigneur donne deviennent de plus en plus excellentes au fur et à mesure qu'on s'approche de lui. Amen. Voilà, tout d'abord, nous jetterons un regard d'avertissement dans la maison de festin que Satan a construite, parce que, comme il est dit dans le livre des Proverbes, si la sagesse a bâti sa maison, si elle a taillé ses sept colonnes, eh bien, la folie aussi a son palais, dans lequel elle invite continuellement les insensés. Et quand vous regardez dans cette maison de banquet, vous pouvez y voir quatre grandes tables avec les invités qui y sont assis. Et vous voyez là aussi les coupes de vin qui sont apportées. Et vous les voyez disparaître l'une après l'autre. Et vous remarquerez que la règle est la même à ces quatre tables. D'abord, le bon vin. Et ensuite, celui qui est moins bon. Et en allant plus loin, celui qui est le pire de tous. Voilà. Donc, voici la première table. Et je dirais, cette table-là, c'est celle du débauché. la table du débauché. Et c'est une table qui est bien gaie que la table du débauché. Hein. Donc, elle est couverte d'une nappe, d'un rouge éclatant, et toutes les coupes et tous les plats qui s'y trouvent paraissent brillants et étincelants. Et vous avez beaucoup de gens qui s'asseyent là. Mais ils ne savent pas qu'ils sont les hôtes de l'ennemi des âmes et que leur festin s'achèvera dans la perdition. Et lorsque vous regardez le grand ordonnateur de ce repas, lorsqu'il entre, eh bien, il a un grand sourire sur son visage et ses vêtements ne sont pas sombres, mais il a une tunique multicolore, il a des paroles doucereuses, une étincelle tentatrice au coin de l'œil, et il apporte la coupe et il dit « Tiens, jeune homme, tiens, jeune fille, bois, bois de cela, regarde comme ça brille dans la coupe, hein. Regarde comme ça coule bien, tu le vois-tu ? C'est la coupe du plaisir. » La coupe du plaisir. Et c'est la première coupe du banquet de Satan. Le jeune homme la prend, il en avale une gorgée, et au début, c'est une gorgée précautionneuse, dirais-je. Hein. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se plonger dans le vice, il veut juste en prendre un petit peu et encore se retenir. Il ne veut pas se laisser prendre par cette drogue, il veut juste goûter un petit peu. Il y a une fleur qui est là, au bord de la falaise, alors il se penche un peu plus, avec précaution, pour l'accueillir, mais il ne veut pas se jeter dans le vide. Hein. Voilà. Donc, alors il prend une autre gorgée, oh, comme elle est douce cette gorgée-là. Et puis il s'aperçoit qu'elle fait circuler son sang joyeusement, lui, et il se dit, mais quel insensé j'ai été de ne jamais avoir goûté cela auparavant. Et est-ce qu'il y a une joie semblable à celle-ci ? Est-ce que vraiment il y a une telle extase, peut-être même une telle jouissance ? Et il boit à nouveau. Il boit à nouveau, et cette fois-ci, c'est une gorgée qui est plus profonde. Et voici le vin qui lui réchauffe les veines, et comme il se sent bien, et il est prêt à dire n'importe quoi, là, en faveur du péché, quelle que soit la forme que prend ce péché. Et là, c'est quelque chose vraiment qui le réjouit. Il boit, et il boit encore, jusqu'à ce que son cerveau commence à chanceler, jusqu'à ce qu'avec l'ivresse, eh bien, il commence à perdre joyeusement le sens. Mais maintenant, avec un sourire sur son visage, l'ordonnateur du repas se lève de son siège. Voilà, et la victime a eu assez de ce meilleur vin. Alors il emporte cette coupe. Elle lui apporte une autre coupe qui est moins brillante maintenant, pas aussi étincelante. Et vous pouvez regarder maintenant cette liqueur qui est là, et elle n'est plus recouverte par les bulles brillantes du plaisir. Elle est plate, elle est sombre, elle est insipide. Ça se nomme la coupe de la satiété. J'en ai assez. La coupe de la satiété. L'homme en a assez du plaisir. Vous savez, comme le chien qui vomit, qui, comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, eh bien, voilà ce qu'il fait et voilà ce qu'il va faire maintenant. Hein. Dans le livre des Proverbes, nous lisons encore, pour qu'il ait, pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait les yeux rouges, pour ceux qui demeurent auprès du vin. Et là, lorsque je parle du vin, je peux en parler dans le sens littéral, mais aussi bien dans le sens figuré, bien sûr, hein, dans ce sens-là. Hein. Le vin du plaisir amène les yeux rouges de la même façon. Le débauché découvre que toute cette coupe-là, eh bien, ça l'amène, ça s'achève en satiété. Qu'est-ce que je peux faire encore ? Qu'est-ce que je peux avoir de nouveau ? J'ai commis toutes les choses qu'on peut imaginer. J'ai vidé toutes les coupes du plaisir. Donnez-moi quelque chose de nouveau. Donnez-moi quelque chose de frais. Je suis allé après tous les plaisirs que je peux concevoir. Tout est devenu plat, morne. Qu'est-ce que je peux faire encore ? Et vous savez, il y en a des milliers qui boivent à cette coupe de la satiété tous les jours, et ils vont chercher, je ne sais pas moi, une nouvelle invention, une nouvelle émotion, voilà, pour tuer le temps quelque part, une nouvelle découverte par laquelle donner un nouvel élan à leur tendance et, je dirais, à leur péché. Mais l'invité demeure à cette table pendant que s'ouvre une autre scène, et là l'ordonnateur du repas, l'ordonnateur du festin, commande une autre liqueur. Comment qu'une autre liqueur soit apportée ? Et cette fois, eh bien, l'ennemi apporte un gobelet sombre et il le présente avec un regard qui est rempli du feu de la perdition. « Bois-en, dit-il ! » Et l'homme, il trempe ses lèvres et puis il recule. « Mais je ne veux pas, je ne veux pas boire ça, je ne veux pas en arriver là. Mais il faut que tu boives. Il faut que tu boives. Celui qui a bu la première coupe doit boire la seconde. Celui qui a bu la deuxième doit boire la troisième. Bois, même si c'est comme du feu dans ta gorge, eh bien bois, même si c'est comme de la lave dans ta poitrine, bois, tu dois boire. Et celui qui a été débauché dans sa jeunesse doit le payer. Et celui qui a été rebelle contre les lois de Dieu doit moissonner la récolte qu'il a semée, la récolte qu'il a mise en route ici-bas. Vous savez, il y a des choses terribles qui pourraient être dites au sujet de cette troisième coupe. Hein. Le palais de Satan, eh bien, il a une salle du devant. La salle du devant qui est remplie de tout ce qui est agréable aux yeux, de tout ce qui est tentateur pour les sens. Mais aussi, vous avez une arrière-salle qui, elle, est remplie de choses terribles et de choses horribles que personne n'a vues entièrement. Et on n'a ni le temps ni les capacités d'en parler au détail. Et en détail, cependant, il faut passer à la dernière étape. La dernière étape, eh bien, ceux qui se moquent de ces choses, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, eh bien, ils vont boire de cette dernière coupe. Et cette dernière coupe, eh bien voilà, le pécheur fut finalement dans cette situation amené lui-même au tombeau. Ses joies, ses espérances étaient comme de l'or qui a été mis dans un sac percé et tout a disparu. Et tout a disparu pour toujours. Et ses péchés le hantent et ses transgressions l'angoissent et il meurt et il descend en perdition, ce qu'une langue humaine ne pourra certainement jamais l'écrire. Et je regarde dans cette coupe et j'entends une voix qui monte depuis sa plus grande profondeur et ceux-ci iront au châtiment éternel. Voilà ce qu'elle dit cette voix. Combien il est urgent et important que le débauché donc se retire de cette table terrible, qu'il prenne garde à ses coupes qu'il boit. La mort est à la porte et sur ses talons il y a une prompte destruction. Qu'il vienne à Jésus, qui seul pourra le sauver, qui seul pourra le sortir de cette chose trappe, de ce filet mortel, parce qu'autrement il est impossible d'échapper. Amen. Mais nous arrivons à cette deuxième table au milieu de la salle du palais, et ça, c'est celle-là, c'est quoi ? Ça, c'est la salle de la propre justice. Ah, la salle de la propre justice. Ah, les braves gens. Hein ? Braves gens, beaucoup d'entre eux n'auraient jamais imaginé qu'ils étaient au festin du diable, mais voici une table pour eux aussi. Ah, donc, elle est couverte d'une belle nappe blanche, et les plats et les coupes qu'on y voit sont très propres, sont très accueillants. Le vin n'est pas sombre comme celui de Gomorre, il est clair comme celui des vignes d'Eschcol. Et voyez donc les hommes qui sont assis à cette table, comme ils sont contents d'eux-mêmes. Demandez aux serveurs qui font le service, ils vous diront, c'est la table de ceux qui sont contents d'eux-mêmes, la table des propres justes. Le pharisien est assis là. Vous pouvez le reconnaître à son large phylactère qu'il a là entre les yeux. C'est un des meilleurs entre les meilleurs. Hein, voilà. Ah, dit Satan, en tirant le rideau et en criant à la table où les débauchés se laissent aller. Restez tranquille, ne faites pas tant de bruit, de peur que ces hypocrites sanctifiés ne se rendent compte dans quelle compagnie ils sont. Ces propres justes sont mes hôtes aussi bien que vous et j'y tiens tout autant. Voilà. Hein, donc. Alors Satan, comme un ange de lumière, apporte une coupe brillante, ressemblant tout à fait à la coupe de la Sainte Seine. Elle contient le vin de la propre satisfaction, voyez-vous. Hein. Et au-dessus du liquide, vous pouvez voir la mousse de l'orgueil. « Ô Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont criminels, injustes, adultères, ni même comme ce publicain. » Voilà le premier effet de ce vin. Le premier effet de ce vin. Et voici le deuxième. Pourquoi est-ce que tu te convertirais, toi ? Hein ? Pourquoi est-ce que tu devrais te repentir comme le dernier des pécheurs ? Tu ne pêches pas comme le reste des hommes. Tu es aussi bien que tes voisins, mieux même. Hein ? Tu n'as jamais tué, tu n'as jamais volé. Tout ton entourage n'a-t-il pas une bonne opinion de toi ? Et nous voilà remplis de ce vin d'orgueil qui nous fait nous sentir quelqu'un de très bien et quelqu'un de très important. Mais voici la seconde coupe que le diable présente, celle du mécontentement et celle de l'inquiétude d'esprit. L'esprit de mécontentement, l'esprit de jugement des autres. Et puis malgré tout les incertitudes quand on est tout seul, cette assurance qu'on n'a pas quand on y réfléchit, hein, donc cette assurance qu'on n'a pas d'être finalement sauvé. On pensait être dressé sur un roc, mais de temps en temps, on sent quand même un tremblement sous ses pieds. Donc, et ceux qui sont ainsi, eh bien, ils ont voulu s'appuyer sur leur propre justice, sur leur observance des choses de la religion, même évangélique, hein, sur leur observance, je ne sais pas moi, des cérémonies, des rites, et puis ils finissent par trouver que ce n'est pas si réconfortant que ça. Voyez-vous, hein, le baptême, la profession de religion, la confirmation, la venue régulière aux offices. Ah, mais ça ne contente pas. Ça ne suffit pas. Attendez encore un peu. Attendez un peu. Et dans ce monde, peut-être, mais certainement, au moment de la mort, eh bien, le diable va apporter la troisième coupe, celle du désappointement, celle de la découverte de notre état de perdition. Et combien d'hommes qui ont été propres juste toute leur vie et qui finalement ont découvert au dernier moment que ce en quoi ils avaient placé leur espérance leur manquait et les abandonnait. Voici l'histoire d'une armée qui a été vaincue dans une bataille, qui a entrepris une retraite en bon ordre. Et les soldats fuyaient malgré tout vers une certaine rivière où ils pensaient trouver un pont. Et ils pensaient franchir ce pont en toute sécurité. Mais quand ils sont arrivés au fleuve, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un cri de terreur. Le pont est coupé. Le pont est coupé. Mais c'est en vain qu'ils criaient. Parce que la multitude de ceux qui fuyaient derrière, eh bien, poussaient ceux qui étaient devant et les poussaient dans le fleuve jusqu'à ce que ce fleuve soit chargé de cadavres d'hommes noyés. Et je dirais, tel est le sort des propres justes. Vous pensiez qu'il y avait un pont de cérémonie. Ce baptême, cette confirmation, ces bonnes œuvres, ces devoirs accomplis formaient un pont solide, un pont aux arches solides. Mais quand vous arrivez à mourir, le cri retentit, le pont est coupé. Le pont est coupé et il sera trop tard. À ce moment-là, il sera trop tard pour se retourner parce que la mort sera juste derrière vous et puis la mort vous poussera de l'avant et vous découvrirez alors que c'est ce que c'est que de périr en négligeant ce si grand salut et en cherchant à vous sauver vous-même par vos bonnes œuvres. Et vous savez, c'est vrai. Et aussi, lorsque vous, aussi bon que vous puissiez paraître aujourd'hui, puisque vous n'aurez pas accepté Christ, eh bien, vous devrez boire la coupe de la colère de Dieu aussi bien que les débauchés dont nous parlions tout à l'heure. Prenez garde dès maintenant que tout regard hautain disparaisse et humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Confiez-vous au Seigneur afin d'être sauvés. Amen, amen. Mais voici une troisième table, bien fréquentée aussi celle-là. C'est la table de l'esprit du monde. Ah, ça c'est aussi quelque chose, hein. Et je dirais que c'est une, oui c'est vrai, beaucoup de riches, beaucoup de puissants de ce monde qui sont là, ou de gens qui aiment cela. Et voici un homme qui dit, ah ben je suis content, tiens, je suis content que le pasteur ait parlé contre le débauché, hein, parce que j'ai travaillé dur pour gagner de l'argent pendant toute ma vie, et voilà mon fils aimé, aîné, qui veut faire qu'une chose, il veut en profiter. Hein, donc, je suis content que le pasteur lui escouille un petit peu les puces, parce que c'est un vrai débauché. Quant à ses propres justes dont vous parlez tout à l'heure, eh bien pour moi, ils ne valent rien. Je ne m'occupe absolument pas de ces choses-là, des choses de la religion. Ce que j'aime, moi, ce sont les cours de la bourse, toutes les bonnes occasions de faire des affaires. Hein. Voilà. Et comme c'est vrai, j'ai entendu parler aussi d'un mondain de ce genre qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Hein. Ceux qui connaissent un petit peu le Nouveau Testament. Hein. Et vous savez ce qu'il est advenu de cet homme, hein. Et si vous ne le savez pas, vous devez le savoir, hein, parce que ce sera votre fin si vous êtes comme lui. Et regardez la table du mondain, lui qui vit pour le monde, lui qui vit pour le gain. Et Satan lui apporte une coupe, une coupe débordante. Jeune homme, jeune fille, tu commences dans les affaires. Alors ne t'occupe pas tellement des principes, hein, ne t'occupe pas tellement des lois, gagne de l'argent le plus vite possible, hein, pour en profiter. Honnêtement, si tu peux, sinon, un petit peu n'importe comment, mais gagne-en, hein. Gagne-en, et voilà la première coupe. Et il y en a beaucoup qui boivent à cette coupe-là, vous savez. Il y en a beaucoup qui boivent. Et après cette première coupe, il y en a une autre, celle de l'avarice, et de toutes ses formes. La convoitise qui l'accompagne. Avoir une maison plus belle que celle du voisin. Avoir une plus belle voiture, de plus beaux vêtements, une plus belle apparence, d'autres choses. Combien Dieu déteste cela. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, dit l'Écriture, de tous les maux. Et ceux qui convoitent, eh bien, ils sont comme la sangsue qui dit « donne, donne, mais n'en a jamais assez », comme ceux qui sont fiévreux, auxquels on donne à boire quand ils demandent, mais dont la soif augmente encore en proportion. Alors, faut-il parler longuement de la triste fin de ceux qui agissent ainsi? La coupe finale pour eux, ils ont bâti leur vie sur les choses de la terre, ils n'ont pas creusé profond, ils ont bâti leur vie sur le sable. Et quand la pluie descend et quand la tempête souffle, eh bien cette maison s'écroule et sa ruine est grande. Hein, vous savez, ça ne prévient pas. Hier à Suippes, Personne ne s'y attendait. Personne ne s'attendait à rien. Il y avait de la pluie qui annonçait comme ça. La météo, personne ne savait rien. Puis d'un seul coup, une tornade, très localisée, hein, grâce à Dieu, ça aurait pu être une catastrophe. Il pourrait y avoir de nombreux morts parce que ça s'est passé tout près du collège, tous les jeunes étaient dehors. À 100 mètres près, eh ben, c'était réglé. Hein. Eh ben, heureusement, il n'y a eu que des dégâts matériels. Une grâce de Dieu encore. Mais pour dire comme les choses arrivent, d'un coup, personne ne s'y attend. Hein. On pense qu'on a tout prévu, tout anticipé. Ah, la météo est là, elle est fiable. Ben, bien sûr, elle est fiable dans ce qu'elle peut faire. Mais voilà, mais le résultat, c'est ça. Hein. Et ça, c'est la réalité. Hein, vous savez, qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Je vous donne une petite anecdote, qui c'est une histoire qui s'est passée il y a déjà un certain nombre d'années, mais quand même, c'était une usine qui, à l'époque, avait entrepris de fabriquer des montres à cadran lumineux. Et donc, 5 ouvrières ont été désignées pour appliquer un liquide qui contenait du radium sur les aiguilles, sur les chiffres, parce que c'est phosphorescent. Hein, donc, et à cette époque, on ignorait malheureusement combien le radium est quelque chose de dangereux. Et donc, ces femmes n'ont éprouvé aucune crainte, à passer le pinceau toujours à nouveau sur leurs lèvres, comme ça, pour le rendre bien pointu, vous savez. Hein, donc, et après un certain temps, évidemment, toutes les 5 ont été atteintes d'une maladie mystérieuse, et le médecin qui les a examinées a dû leur apprendre qu'il n'y avait aucun moyen de les sauver, qu'elles avaient tout au plus 1 an à vivre. Alors l'usine leur a payé une forte somme pour les dédommager, leur a loué une rente mensuelle en plus, et du jour au lendemain, ces ouvrières sont trouvées en possession de beaucoup d'argent et en même temps que de la triste certitude de leur mort imminente. Et voilà ce qu'elles ont fait au courant de l'année qui leur restait à vivre. L'une a payé les dettes de son père, que son père avait contracté pour un terrain et a vécu paisiblement auprès de ses parents reconnaissants. Insensée, la deuxième a essayé de profiter de tout cet argent et de jouir des jours qui lui restaient ici-bas comme s'il n'y avait pas de vie après la mort. Après, vous avez eu la troisième qui a donné l'argent à son mari. Celui-ci a immédiatement cessé de travailler. Il est devenu un buveur. Il a maltraité sa femme. La quatrième a couru d'un médecin à l'autre en espérant trouver du secours. Mais la cinquième, après avoir partagé l'argent aux membres de sa famille, s'est suicidée. Alors mon ami, que ferais-tu si tu savais que tu n'as plus qu'un an à vivre? Ah, si on savait ça, on ne le sait pas. Ah, on ne sait pas, parce que ce n'est pas nous qui gérons ces choses-là. Mais j'arrive à ma quatrième table. La quatrième table, elle est dans un coin très retiré du palais de Satan. Ah, c'est une table qui est préparée pour le pécheur en secret. Ah oui, ça c'est quelque chose. Hein. Et là aussi, la vieille règle est observée, vous savez. À cette table, dans un coin bien sombre, il y a ce jeune homme qui est assis aujourd'hui, et Satan entre doucement, sans faire de bruit, et personne ne l'entend. Et il porte avec lui la première coupe. Combien elle est douce! C'est la coupe du péché en secret. Et comme il est doux, ce morceau qui est mangé tout seul, y en a-t-il un qui est jamais aussi roulé délicatement sous la langue? C'est la première coupe. Et après cela, il en apporte une autre. Et cette fois-ci, c'est la coupe d'une conscience inquiète. Parce que les yeux de l'homme s'ouvrent. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est à quand? Qu'il s'écrit alors. Ah, dans la première coupe que tu m'as apportée, j'ai vu briller un lingot d'or et un manteau de chinéard. Voilà. Et j'ai pensé, il faut que je possède cela. Mais maintenant, ma pensée me dit, où est-ce que je vais le cacher? Il faut que je creuse. Il faut que je creuse pour cacher. Hein, il faut que je creuse plus profond parce que tout ça va être découvert. Mais voici une autre coupe qui est apportée par le terrible ordonnateur du repas. C'est la crainte grandissante que cela ne soit découvert, comme cet homme qui devait une forte somme d'argent et qui avait continuellement la crainte d'être pris par la police, et quand son écharpe derrière lui s'est prise un jour dans une palissade, il s'est écrié « Lâchez-moi, lâchez-moi, je vous payerai demain !» Voilà, simplement, imaginons qu'on mettait la main sur lui. Eh oui, c'est comme ça. Et qui peut parler justement de la dernière coupe? La dernière coupe quand il sera démasqué. Eh oui, parce que c'est ça aussi. Hein. Peut-être le sera-t-il déjà sur la terre et sera-t-il dévoilé à ce moment-là comme ce qu'il est réellement devant tous ceux qui pensaient beaucoup de bien de lui. Hein. Mais être démasqué à la barre du jugement de Dieu, mes amis. Être démasqué là, quelle terrible chose. Hein. Quand ce péché secret sera ainsi mis à nu, action après action. Et quelle chose terrible alors d'avoir à subir cette condamnation unanime de l'univers entier. Quelle chose terrible dont le pécheur en secret devra être abreuvé et rempli, remplis pour l'éternité. Combien il faut donc que chacun d'entre nous prenions garde de ne pas participer à ce banquet de Satan, quelle que soit la table. Quelle que soit la table. Car celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et c'est pourquoi il faut venir à Jésus, qui est seul capable de nous délivrer entièrement et de nous sauver parfaitement. Amen. Vous savez, l'Écriture est claire. Elle nous affirme dans bien des endroits que nos secrets les plus intimes et nos péchés seront révélés au grand jour. La Bible dit cela. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, verset 12. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Daniel chapitre 2, verset 22. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Matthieu 12, verset 36. Le Seigneur mettra en lumière tout ce qui est caché et manifestera les desseins des cœurs. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Quand Jésus a dit « Tout ce qui est secret doit être révélé au grand jour », ça devrait nous faire paniquer plutôt que de nous rassurer. Et pourquoi est-ce que ce serait une raison de nous réjouir ? Eh bien, Romains 2, verset 16 nous donne la réponse. Dieu jugera à travers Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, les actions secrètes des hommes. Alléluia. Vous avez noté ces paroles ? À travers Jésus-Christ. Vous pouvez les souligner. Jésus-Christ, c'est le filtre au travers duquel Dieu verra et jugera nos actions. Alléluia. Alors, vous pouvez encore écouter maintenant ces autres paroles. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Romains 8, verset 1. Celui qui a la foi en Jésus est justifié. Romains 3, verset 24. Quiconque croit est justifié par lui de toutes choses. Acte 13, verset 39. Je pardonnerai leur iniquité, je me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 8, verset 12. Votre nature pécheresse est morte et votre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Et aujourd'hui, si vous avez reçu Christ dans votre cœur, quand Dieu vous regarde, il ne voit que Jésus qui vous enveloppe complètement. Alors c'est vrai, vos faiblesses doivent toujours être résolues, mais ne vous empêchent plus d'être en Christ. Et le Seigneur vous donnera la victoire sur elles finalement. C'est pour ça que c'est une raison vraiment de nous réjouir. Amen, amen. Et puis nous prendrons aussi le temps de parler de la maison du Seigneur où il fait un festin pour ses bien-aimés. On a déjà commencé à en parler un petit peu d'ailleurs, mais il nous faut parler de la table, je dirais, des providences extérieures déjà. Des providences extérieures. Providence, ça vient du latin providere, qui veut dire pourvoir. C'est le fait que Dieu pourvoit. C'est vrai que tout n'est pas le plus facile au début, hein, parce que quand on vient au Seigneur, il faut aussi compter le prix. Il faut savoir, on ne s'engage pas comme ça, sans réfléchir dans les choses de Dieu. Il faut compter le prix avant de s'engager pour Christ, se poser la question, mais est-ce que je veux vraiment construire quelque chose avec Christ ? Est-ce que je veux vraiment que ça puisse être mené à l'achèvement ? Alors, il y aura aussi, ne nous faisons pas d'illusions, il y aura aussi des afflictions, il y aura aussi des difficultés, il y aura aussi des moqueries qui accompagnent la bénédiction du salut. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, il est dit au verset 37, par exemple, « Ils allèrent, ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. » Ce sont des réalités tout ça, hein ? C'est vrai. Mais quelle merveilleuse coupe de délivrance, alléluia, hein ! Quelle coupe de guérison, quelle coupe de besoins secourus, de besoins pourvus, même si ce sont bien sûr, le Seigneur ne pourvoit pas pour le luxe, le Seigneur pourvoit pour les besoins, mais il le fait avec fidélité, béni soit son nom. Et c'est, j'irai, à la fin que vient le meilleur vin que le Seigneur garde pour nous le donner en abondance avec sa paix et avec sa grâce, alléluia. Et puis, il nous faut aussi nous asseoir à la table de l'expérience intérieure, voyez-vous. Ça aussi, c'est important. Et ça aussi, le meilleur est pour la fin. D'abord, au début, vous avez beaucoup de gens, ils ne veulent pas venir au Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas s'humilier. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Parce qu'ils ne veulent pas demander pardon. Parce qu'ils ne veulent pas changer. C'est leur problème. Ah, c'est toujours embêtant quand on est remis en question. Hein ? Parole de Dieu nous remet en question. Et c'est vrai que c'est, je dirais, la coupe de la conviction de péché. Rappelez-vous. Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, lorsqu'il a bu un peu de cette coupe-là, il en était aveugle pendant 3 jours. Hein. C'était quelque chose, une conviction de péché profonde qui nous amène à cette repentance. Et puis après, eh bien, cette repentance, ce dont on ne se repent jamais, bien sûr. Hein. Ensuite, vous avez une coupe plus douce. Et cette coupe, elle porte, ben, elle est remplie, je dirais, de l'écarlate riche du précieux sang de Jésus. Hein. C'est cette coupe-là, cette coupe que tout véritable croyant a pu boire pour être entièrement pardonné et libéré de son péché. Alléluia. Et ça, c'est fondamental et ça, c'est vital aussi. Et puis, vous avez en même temps la merveilleuse coupe de la délivrance, la coupe de la libération. À ce moment-là, on peut s'écrier, j'élèverai la coupe des délivrances. Amen. Hein ? Que toute la terre dise Amen, car il a brisé les portes d'airain, il a mis les verrous de fer en pièces, il a libéré les captifs. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'on expérimente dans la vie. Le Seigneur donne la victoire sur le péché. Le Seigneur donne la victoire sur les mauvaises tendances de notre caractère. Le Seigneur donne la victoire sur les vices. Le Seigneur donne la victoire sur toute la puissance de l'adversaire. Mais si nous attendons un peu, il a préparé encore de meilleures coupes, de meilleurs vins encore. Parce que bientôt, on entrera dans la gloire. Et on pourra boire de ce vin vieux du royaume de Dieu qui a été gardé depuis la fondation du monde. On pourra entrer à ce moment-là dans ce pays de la gloire éternelle. Et alors, on boira de ce vin qui est rempli de toutes les saveurs de Christ, de son amour, de son œuvre, de son sacrifice, de sa résurrection et de sa gloire. Et il vient ce moment où le Seigneur accueillera notre âme au sortir de notre corps pour nous prendre toujours avec lui, ou mieux encore, où nous serons transformés instantanément à son image. Et alors où est-ce qu'on sera ? Ben, je dirais, on sera dans cet océan d'amour, cet océan de vie, de bonheur, d'immortalité, être pour toujours avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Alléluia. Être avec Jésus dans cette plénitude de joie. Et alors on dira, Seigneur, il est vrai que tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Tout ce que j'ai jamais eu, eh bien, c'est rien comparé à cela. Ah, vous avez encore d'autres tables dans la gloire éternelle, hein, donc nous n'avons même pas un commencement d'idée. Mais où est-ce que vous en êtes en ce moment ? À quelle table est-ce que vous êtes assis en ce moment ? Venez à Jésus si ce n'est pas fait encore. Sortez du banquet de l'ennemi, son vin est trompeur. Et il deviendra de plus en plus mauvais. Hein, sous son emprise, vous aurez de plus en plus de mal à échapper, de plus en plus de mal à vous en sortir. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous en ouvre la porte. C'est lui qui libère, c'est lui qui lave, c'est lui qui vous introduit dans sa grâce. C'est lui qui vous aime, c'est lui qui vous sauve. J'aimerais encore conclure avec une petite anecdote. C'est un petit garçon qui s'appelait Jean, qui habitait dans un coron du nord de la France. Les corons, vous savez, c'est des quartiers de maisons toutes simples, construites en briques, des quartiers de mineurs. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de mines de charbon spécialement. Et puis alors, il a demandé à sa maman, est-ce que je peux aller chercher papa à la sortie du travail ? Il m'a dit qu'une fois, je pourrais aller le chercher. Alors sa mère a dit, bon, écoute, si tu veux, mais ne va pas traîner dans les endroits dangereux. Et donc, Jean sort précipitamment et court pour rejoindre l'entrée de la mine. Et il s'agissait d'un des derniers charbonnages qui était encore en activité dans le nord de notre pays à ce moment-là. Et Jean était en avance. Il a attendu patiemment la sortie des mineurs qui devaient remonter par l'ascenseur. Donc, et un homme âgé qui était là l'observait, lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon ?» Alors il a dit « Ben, j'attends mon père. » Alors l'autre lui a dit, mais tu ne pourras pas le reconnaître parce que parmi les centaines d'hommes qui vont défiler, parce qu'ils ont tous le même casque, ils ont la figure noire de charbon. Alors c'est vrai que j'en avais pas pensé à ça. Mais tout à coup, il y a un large sourire qui a éclairé son visage et ses yeux sont illuminés. Il a dit, mais mon papa, lui, il me reconnaîtra. Alléluia. Mon papa, lui, me reconnaîtra. Quelle belle réponse, vous savez. Face à la difficulté qui a surgi, cet enfant n'a pas douté de l'amour de son père, ni de sa capacité à le reconnaître, lui, le petit garçon qui était venu à sa rencontre. Et ainsi, ceux qui se confient vraiment en Dieu de tout leur cœur peuvent le voir intervenir dans leur vie de tous les jours comme un père qui prend soin de son enfant et qui veut pour lui le meilleur. Dieu, ce n'est pas une idée. Dieu, ce n'est pas une philosophie. Dieu, c'est une personne. C'est une personne extraordinaire et qui nous tend la main. Et il connaît chacun personnellement. Ah, il laisse à tous la liberté de le chercher, de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Mais en tout cas, sa parole, la Bible, le message de Dieu aux hommes nous révèle qui il est, quels sont ses commandements, quelles sont ses promesses. Et par Jésus, eh bien, il peut devenir notre Père pour ce temps et pour l'éternité. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, et nous te bénissons parce que tu es encore ce Dieu de grâce et d'amour ce soir. Et merci pour ce désir puissant que tu as de sauver chacune et chacun d'entre nous. C'est vrai que dans notre inconscience, dans notre négligence et dans notre folie, nous étions assis les uns et les autres, les uns à une table, les autres à une autre table du diable. Et nous étions là, pris, et nous étions là, boire ces coupes, et nous aurions continué. S'il n'y avait pas eu le message précieux et puissant de l'Évangile qui nous a interpellés, s'il n'y avait pas eu des témoignages qui nous ont été rendus, Seigneur, pour attirer notre attention sur, d'une part, la situation où nous étions, et surtout sur toi, notre précieux et puissant Sauveur. Et c'est pour cela que ce soir, nous sommes encore extrêmement reconnaissants envers toi. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Tu nous as tirés de la fosse de perdition. Tu as tiré du chemin de perdition dans lequel nous étions, la voie large qui mène à la perdition. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Il y a le chemin étroit qui mène à la vie. Tu nous y as fait entrer. Mais si parmi nous il en est encore ce soir, qui n'ont pas encore franchi le pas, qui n'ont pas encore répondu à l'appel du Sauveur, qui ne sont pas encore tournés vers lui, eh bien qu'ils le fassent maintenant. Y a-t-il quelqu'un qui veut se tourner vers Jésus ce soir, le prendre comme son Sauveur et marcher dans ses voies, se tourner vers lui, qu'il lève sa main, qu'elle lève sa main, que nous puissions encore demander au Seigneur d'intervenir. Alléluia. Ô Seigneur Tout-Puissant, c'est toi qui visites les âmes, c'est toi qui visites les cœurs, c'est toi qui parles encore, Seigneur, aux uns, qui parles encore aux autres. C'est toi qui opères l'œuvre du parfait salut dans chaque cœur, Jésus, alléluia. C'est toi qui délivres, Seigneur, alléluia, par ta puissance. Tu es celui qui enlève l'ivresse de l'adversaire et tu es celui qui ouvre nos yeux pour que nous voyions clairement où nous en sommes, que nous puissions nous tourner consciemment vers toi, notre précieux et puissant Sauveur. Merci Jésus, louange à toi pour ton amour, louange à toi pour ton œuvre, louange à toi pour toute bénédiction, tout travail puissant et salutaire que tu opères maintenant encore en faveur de chacune et de chacun de ses bien-aimés. Sois glorifié notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia.